Carnet de campagne, bonjour. Dernier tour d'horizon des initiatives en Dordogne. Première étape, Saint-Amand-de-Belvèze, dans le Périgord noir, une ferme inhabitée au centre d'un domaine de bassins et de forêts. En 2008, un jeune éco-constructeur, Benoît, y pose ses valises. Son premier objectif, modeste, est de créer une ferme qui permette l'autonomie alimentaire. Carmen le rejoint en 2013 et la ferme de Cagnol, c'est son nom, prend une autre tournure. Plus d'un hectare de production maraîchère labellisée AB, agriculture biologique, l'arrivée de moutons, la plantation d'arbres fruitiers vont faire le reste. Aujourd'hui, la ferme est un lieu de référence en matière de permaculture et d'agroécologie. On peut y séjourner, mais aussi donner un coup de main au jardin et surtout se former auprès des intervenants professionnels invités à partager leurs connaissances. Le site, c'est la ferme de Cagnol, avec deux L, la ferme de cagnol.wordpress.com. C'est dans ce même pays qu'est né un projet surprenant d'accueil de personnes handicapées mentales dans un domaine agricole. Le projet soutenu par l'association Les Bonnes Bouilles à Bouillac est présenté aujourd'hui par Jean-Pierre Servoir. En parallèle, je vous conseille la lecture de l'article que notre confrère de la ville, Laurent Jibowski, lui consacre dans les pages numériques du magazine. Ensuite, direction le Périgord vert pour rencontrer Éric Novion qui préside la seule AMAP de ce pays à Pézac.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Pierre Servoir, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Jean-Pierre,
merci de nous accueillir.
Oh, avec plaisir. On aime bien les Bonnes Bouilles, c'est le nom de l'association dont vous êtes le secrétaire, à Bouillac, or c'était voulu. Mais c'est pas à Bouillac directement qu'est née l'histoire de l'association, c'est sur un marché à Belvèze.
Voilà, exactement, parce que mon fils est trisomique et le monsieur qui s'en occupe, qui s'appelle Gilles, à une ferme qu'il exploite avec des cochons gascons et il vend la charcuterie sur le marché. Et son fils a lui aussi est trisomique mais plus jeune que Hugues et donc il a eu l'idée de je dirais presque d'imposer sur le marché un enfant handicapé, donc nous trisomiques, face à ses clients. Et le système fonctionne très très bien, les gens sont enchantés, Hugues aussi, c'est une vedette là-bas maintenant, et on s'est dit que, parce que ça fait 5-6 ans ça, que ça fonctionne comme ça, tous les samedis matins, Hugues va sur le marché pour présenter la charcuterie, faire aider à vendre, etc. Et donc on a décidé de monter une association pour développer un petit peu cette idée de présenter sur les marchés avec un adulte, jeune adulte handicapé, de façon à donner le change avec les clients.
Mais voilà. Jean-Pierre, ça veut dire que dans ces villages, il y a encore cette paroi opaque entre le handicap et la vie normale, entre guillemets.
Ben, je crois malheureusement qu'il n'y a pas que dans les villages, mais dans les villages aussi, c'est-à-dire que les gens ne sont pas confrontés au handicap facilement, quoi. Les adultes et enfants handicapés sont dans des établissements, sont bien pris en charge, hein. Le problème ne se pose pas de ce côté-là. Moi, mon fils travaille dans un ESAT toute la semaine, mais le samedi, bénévolement, il va se présenter comme ça, et c'est un contact que les gens aiment bien, hein. Il faut reconnaître que c'est apprécié, mais bon, il y a effectivement une méconnaissance quand même du milieu handicapé et depuis toujours et on essaye de se battre tous les jours pour améliorer ce sujet, mais enfin c'est difficile quoi.
Et alors ça vous a donné des ailes, cette expérience, et ça vous a conduit à imaginer un lieu de vie qui pourrait être une ferme, et en particulier celle de Gilles.
Voilà, celle de Gilles, au travers de laquelle on aurait des séjours de rupture, c'est-à-dire pour des gens qui ont un petit peu de difficulté dans l'établissement où ils sont, etc. Faire des séjours de rupture pendant un certain temps, en profiter pour avoir un rapport avec la nature, un rapport avec les animaux, et de pouvoir être sur le marché pour servir les clients de Gilles.
Ouais. Et dites, voilà. Jean-Pierre, toutes les fermes du Périgord se ressemblent parce que celle de Gilles, c'est une bâtisse qui est sublime.
Eh bien, c'est une bâtisse qui était en ruine quand Gilles l'a prise et qu'il a remontée de ses mains. Et il a construit dedans 5 chambres prévues pour les handicapés, une chambre pour du personnel qui sera là en permanence, et puis un appartement pour sa famille.
Mmh. C'est 300 mètres carrés avec ses chambres, les pièces à vivre, le bureau de permanence, le logement indépendant et un parc de 6 hectares.
Ouais, sur lequel les cochons vivent dans la nature, c'est du bio absolu. Et puis avec les poules, etc. Et on va monter aussi un jardin,
pédagogique.
Pédagogique, voilà, pour aider les handicapés, leur apporter autre chose en plus, si vous voulez, que ce qu'ils ont dans leurs établissements ou dans la rue, quoi.
Et dans cette belle démarche et ce beau projet, est-ce que vous bénéficiez d'aide ou vous faites ça avec vos propres moyens?
Jusqu'à présent, on fait ça vraiment avec nos propres moyens. Et c'est pour ça qu'on a monté cette association, pour pouvoir avoir une structure qui permette de recevoir des aides. Alors, il faut qu'elle soit agréée par l'ARS. On a monté le dossier. On est en route pour finaliser ce projet-là. Et à partir du moment où on a l'ARS, on aura, pour chaque personne handicapée reçue, un prix de journée. Hein, qui sera défini par le département, etc., et qui nous permettra d'accueillir ces personnes.
Bravo.
Mais nous, on est tous bénévoles dans l'affaire. Hein, et le bonheur, c'est aussi d'être bénévole et de faire les choses pour autre chose que pour l'argent.
Et vous parliez de l'ARS, donc je traduis, mais tout le monde le sait maintenant, c'est l'Agence Régionale de Santé.
Voilà.
Et votre adresse, c'est lesbonnesbouilles.org pour l'association dont le secrétaire est Jean-Pierre Servoir. Et quand on s'appelle Servoir, on aime être au service des autres.
Absolument.
C'est dit.
Ça, c'est vrai.
En plus. Bon, ben ça s'entend et ça se voit, si je peux dire, même si on a la radio, avec ce que vous faites.
Hein. Oui, écoutez, pas de souci. C'est très gentil.
Merci à vous, Jean-Pierre, et bonne journée.
Merci, Philippe. Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Un mot sur la Maison des Paysans de Dordogne qui nous a écrit tout récemment, association implantée sur le territoire périgourdin depuis 2010 et qui accompagne chaque année une centaine de porteurs de projets, autrement dit de candidats à l'installation, décidés à développer l'agriculture paysanne de demain. Parmi ces candidats, une moitié néo-ruraux, personnes dites hors cadre familial, et puis une moitié d'enfants de paysans. Le principe de la Maison des Paysans de Dordogne est d'organiser des cafés-installations qui sont l'occasion pour ces paysans en herbe, si on peut dire, de rencontrer les acteurs du monde agricole dans une démarche participative. La volonté de la Maison des Paysans est claire, c'est aller au plus près des territoires. Ça se passe pour les cafés non seulement à Périgueux-Bergerac, mais aussi dans des villages, Exideuil, Saint-Antoine-de-Breuil, Bourou et dans d'autres. La dynamique impulsée par ces cafés délocalisés en favorisant les échanges de savoir, savoir-faire et de solidarité est à même de créer du lien social, écrit cette maison, support du développement des territoires ruraux. En 2017, 11 cafés et installations ont eu lieu, 45 porteurs de projets agricoles ont été accompagnés individuellement, 28 ont réalisé un diagnostic, 14 ont réalisé une étude économique et 6 ont déposé une demande de DJA, autrement dit de dotation jeunes agriculteurs. Il y a une site, c'est maison des paysans dordogne.wordpress.com. J'aime bien le ton blagueur de Laurent dans son courrier qui dénonce un périgourdin particulièrement énervant. Alors je cite, cet homme n'a de cesse de trouver des solutions simples mais innovantes pour protéger notre planète. Quelle idée! Les solutions en question sont signées Nature Concept, entreprise sise à Boulazac et dirigée par son créateur énervant, Charlie Bernard. Et en effet, ce Charlie a de quoi agacer. Figurez-vous qu'il a inventé des tentes en carton, 100% recyclable, objet idéal pour tous les publics des festivals d'été, adaptable aussi facilement au séjour en camping. La tente en carton est en train de cartonner, évidemment, en Europe, au point que la petite société périgourdine s'est rapprochée d'une société néerlandaise, Kartent, et d'une autre en Pologne qui répond au nom de Biotremp. Puis alors, c'est pas tout. L'énervant Charlie a inventé aussi l'assiette et les couverts comestibles en son de blé, l'emballage comestible, et puis le caron en carton, vous savez, l'instrument de percussion. De même que la bouteille d'eau biodégradable et connectée. Le tour d'horizon des informations sur cette société m'a permis de découvrir que les festivaliers avaient la fâcheuse habitude d'abandonner leur tente sur les sites d'événements. Exemple, rien qu'aux Pays-Bas, 25 000 tentes sont abandonnées chaque année. Les tentes en carton sont customisables à souhait et se montent et se démontent en un clin d'œil. En plus de ça, elles sont biodégradables. Vous allez trouver deux sites, c'est celui de la petite entreprise devenue grande Nature, tradeunionconcept.com, Nature sans E, Nature, et puis cartent.com pour l'autre entreprise qui diffuse ses inventions depuis les Pays-Bas. Éric Novion, bonjour.
Bonjour Philippe.
Je suis toujours impressionné par des bourgs comme votre commune de Pézac, 980 habitants, qui attirent autant. Alors parfois c'est péjoratif aux oreilles des locaux, des villageois, les néo-ruraux, parce qu'on dit « Ah, c'est des gens de la ville qui viennent envahir notre terrain et nous donner une leçon de vie ». Mais apparemment c'est pas tout à fait ça à Pézac.
Non, pas tout à fait, effectivement. On a la chance d'avoir une grande diversité de aussi bien d'étrangers qui viennent sur nos beaux territoires chercher de l'espace et des possibilités de créer, d'innover et de rejoindre sans doute une nature bienveillante.
Mmh. Sauf qu'innover dans un milieu rural en créant une AMAP, alors que tout le monde quasiment fait ses propres légumes dans son potager, c'est un vrai défi.
Ouais, effectivement, c'était un défi, mais il s'est avéré que un enthousiasme et une dynamique s'est créé autour de cette AMAP, à la fois dans le soutien de jeunes producteurs qui ont décidé de se lancer dans des aventures individuelles, mais qui finalement deviennent un peu collectives dans le cadre de cette AMAP, qui est un soutien à produire et à créer localement pour atteindre une certaine qualité de produits et de distribution en circuit court.
Alors j'imagine que tout le monde n'a pas nécessairement son potager, son jardin. Donc l'autre solution quand on n'a pas ça, c'est qu'on va en ville, dans une grande surface pour s'alimenter.
Effectivement, on connaît ses habitudes à la campagne, si ce n'est que tout le monde ne peut pas forcément s'approvisionner sous cette forme-là. Donc une clientèle locale pouvait aussi trouver son intérêt dans un approvisionnement en circuit court localement. Et il y a eu donc très rapidement une augmentation des demandes et aussi bien du côté du consommateur que du côté des producteurs pour intégrer cette AMAP.
Oui. Et alors, ça, c'est en train de transformer la vie du village, Éric ?
Oui, oui, effectivement, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place de bénévolat, d'entraide, la commune a pris part au projet et tout ça a généré une qualité d'échange, une convivialité et une dynamique autour d'un projet sur notamment sur la place de notre village, puisque prochainement une halle va être implantée, qui va donc nous permettre de nous agrandir avec plus de lisibilité, de faire participer aussi les commerçants localement, et puis de développer, d'ouvrir un peu plus notre AMAP.
Il y a des bourses d'échange aussi, parce que je vois qu'on est très solidaire et que l'animation est en train de s'amplifier avec un sel, avec des conférences prévues dans cette halle, l'ouverture au circuit court, enfin bref, c'est un sacré renouveau ça.
Oui, effectivement, c'est très positif pour notre commune et tout le monde est très partie prenante dans ce développement, dans cette aventure. Voilà, on attend beaucoup de ça. Mais on ne fait pas qu'attendre, hein. On se réunit régulièrement, on discute de ça et tout le monde amène un petit peu son eau au moulin.
Est-ce que ça attire de nouvelles populations ? Parce que vous vous destinez à accueillir aussi des populations en gîte. Vous sentez le s'ouvrir une nouvelle ère de visite, de séjour ?
Oui, je pense que des régions comme la nôtre, là, aux confins du Périgord vert, qui sont restées un petit peu dans une certaine tranquillité, et on espère la conserver, je pense que c'est une région qui va s'ouvrir effectivement de plus en plus à l'accueil dans ce territoire où on a beaucoup à apprendre de son histoire et de sa nature qui est très très riche et très très diverse.
Et vous présidez, je le signale, la seule AMAP justement sur ce territoire du Périgord vert. Vous pouvez aller sur le site de Pézac, hein, pezac24.fr, et puis entrer en lien avec cette AMAP présidée par Éric Novion. Merci Éric.
Merci Philippe.
Je reviens sur la suite de notre feuille de route. La semaine prochaine, nous serons dans l'Aude. Ensuite, nous serons dans le département de l'Indre, puis de l'Ariège. Et au mois de mai, nous allons traverser la Haute-Garonne, le Loiret, l'Eure-et-Loire, la Seine-Saint-Denis. Continuez à nous écrire et à nous informer des innovations du côté de chez vous. Merci. Merci à Anne Lureau qui réalisait les carnets cette semaine. Merci à Joël Levert qui leur apportait du contenu. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnait du volume comme aujourd'hui Théo Gomard. Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Payret pour la dernière en Dordogne. À Montpon-Ménestérol, c'est le jeu des 1 000 euros.